Jacques Lacan. Séminaire ou pire. Le 15 mars 1972. Coupure début de bande.
Je vais raconter quelque chose de centré sur l'autre. Plus commode que ce dont je vais parler aujourd'hui. Dont je vous ai déjà caractérisé ce qu'on pourrait appeler le rapport à l'autre. Précisément ceci, qu'il n'est pas inscriptible, ce qui ne rend pas les choses plus faciles. Il s'agit de l'homme. L'un pour autant déjà, je vous ai indiqué. Vous indiquant aussi comment la trace en est frayée dans le Parménide de Platon, dont le premier pas pour y comprendre quelque chose, c'est de vous apercevoir que tout ce qu'il en énonce, dialectisable, se développant de tout discours possible au sujet de l'être, c'est d'abord et à ne le prendre qu'à ce niveau. S'exprime, c'est un. Et peut-être y en a-t-il un certain nombre d'entre vous à avoir semé adjuration ou verse libre, et de s'être aperçu que c'est pas la même chose. Que dire que l'un est. Cet un, c'est la première hypothèse. Et l'un est, c'est la seconde. Elles sont distinctes. Bon. Naturellement, pour que ceci porte, faudrait que vous lisiez Platon avec un petit bout de quelque chose là, qui viendrait de vous. Il ne faudrait pas que Platon soit pour vous comme ce qu'il est. Un auteur. Vous êtes formé, votre enfance, à faire de l'auteur stop. Depuis le temps que c'est passé dans les mœurs. Vous adressez aux machin là, comme un torrifé. Vous devriez savoir que ça ne mène nulle part. Encore bien sûr que ça puisse vous mener très loin. Ces observations étant faites, c'est l'un, donc, pour des raisons qu'il va falloir encore que je m'excuse, car au nom de quoi est-ce que je vous occuperai avec ça? C'est de là que je vais vous parler aujourd'hui, et même pour ça. J'ai inventé un mot qui sert de titre à ce que je vais vous en dire. Je ne suis pas très sûr, je suis même sûr du contraire. Je n'ai pas inventé lunaire. Le trait lunaire. Quand 62, j'ai cru pouvoir extraire de Freud, qu'il l'appelle Einzig. En traduisant S, qui a paru à l'époque miraculeuse, il y a quelques années. C'est bien curieux que Leinziger Zug, la deuxième forme d'identification distinguée par Freud, ne les ait jamais retenus jusque-là. Par contre, le mot dont je ferai accolade à ce que je vais vous dire aujourd'hui est tout à fait vous. Et il est fait comme d'une précaution, parce qu'à la vérité, beaucoup de choses qui sont intéressées à l'un, de sorte qu'il n'est pas possible, je vais essayer pourtant de frayer tout de suite, quelque chose qui situe l'intérêt. Discours, pour autant qu'il est lui-même frayage du discours analytique, l'intérêt mon discours a passé par là. Mais d'abord, prenez-en le champ en gros, désigné donc de l'union, U-L-I-E-N. Un mot qui ne s'est jamais dit, qui a pourtant son intérêt, donner une note d'éveil pour vous chaque fois que l'un sera intéressé, et qu'à le prendre ainsi, une forme épithète ne vous rappellera ce que Freud, ce que Platon d'abord promeut, c'est que de sa nature il a des pentes diverses. dans l'analyse, l'on soit parlé, ce qui ne vous échappe pas, je pense, à vous souvenir de ce qu'il préside à cette bizarre assimilation de l'éros à ce qui tente à coaguler. Sous prétexte que le corps, c'est très évidemment une des formes de l'âme, que ça tient ensemble, c'est un individu, sauf accident. Il est, c'est singulier, promu par Freud, et c'est bien, à vrai dire, ce qu'il met en question. La dyade, avancée par lui d'Eros et Thanatos, si elle n'était pas soutenue d'une autre figure qui est très précisément celle où échoue le rapport sexuel, à savoir celle de l'un et de pas un, à savoir zéro, on voit mal la fonction que pourrait tenir ce couple stupéfiant. Il est de fait qu'il sert. Il sert au profit d'un certain nombre de malentendus, d'épinglades, de la pulsion de mort, ainsi dite, à tort et à travers. Mais il est certes, en tout cas, l'un le sort. Dans ce discours sauvage qui s'institue la tentative d'énoncer le rapport sexuel, il est strictement impossible de considérer la copulation de deux corps comme n'en faisant qu'un. Il est extraordinaire qu'à cet égard, le banquet de Platon, alors que les savants ricanent du Parménide, le banquet de Platon soit pris au sérieux comme représentant quoi que ce soit qui concerne l'amour. certains se souviennent peut-être encore que j'en ai usé dans une année exactement celle qui précède et que j'ai avancé tout à l'heure. L'année 61-62. C'est en 60-61 que j'ai pris le banquet pour terrain d'exercice. Et je n'ai rien songé à en faire d'autre qu'à en fonder le transfert. Jusqu'à nouvel ordre, le transfert est quelque chose de l'ordre du deux peut-être à son horizon. On ne peut pas passer pour une copulation. Je pense tout de même avoir un petit peu indiqué alors le mode de dérision sur lequel se déroule cette scène, très proprement parlée, désignée comme la chic, que soit Aristophane qui promeut, qui invente la fameuse bipartition de l'être qui, de prime abord, n'eût été que tête à deux dos, qui se tient serré, hein. Et donc c'est la jalousie de Zeus qui en fait deux à partir de là, c'est assez dit dans quelle bouche est mise cet énoncé pour indiquer qu'on s'amuse. On s'amuse bien, d'ailleurs. Le plus énorme, c'est qu'il n'apparaisse pas que celle qui couronne tout le discours, la nommée Diotime, ne joue pas un autre rôle, puisque ce qu'elle enseigne, c'est que l'amour ne tient qu'à ce que l'aimer, qu'il soit homo ou hétéro, on n'y touche pas. Il n'y a que l'Aphrodite uranienne qui compte. Je n'ai pas précisément à dire que ce soit l'un qui règne sur l'éros. Ce serait déjà à soi tout seul une raison d'avancer quelques propositions déjà frayées d'ailleurs sur l'un. Il n'y avait pas en outre ceci, c'est que dans l'expérience analytique, le premier pas, c'est d'y introduire un. L'analyste qu'on est, faire le pas d'entrée, moyennant quoi, analysant qu'il s'agit 17. Le premier mode de sa manifestation est évidemment de procès. Vous n'êtes qu'un entre autres. Vous voyez dans quoi ce qu'il manifeste, mais bien sûr sans s'en apercevoir, c'est très précisément que ces autres, il n'a rien à faire avec eux. C'est pour ça qu'avec l'analyste, je voudrais être le seul à que ça fasse deux. Et qui ne sait pas ce dont il s'agit, c'est justement qu'il s'aperçoive que deux, c'est cet un qui se croit. Et où il s'agit qu'il se divise. Alors donc, y a-t-il voudrait écrire ça. Aujourd'hui, je suis comme ça, je m'en prie porté à l'écrit, mais enfin, pourquoi pas. Pourquoi pas l'écrire comme ça. L'écrire comme ça, vous allez voir, ça a un certain intérêt, mais pas sans justifier le choix de cet unien tout à l'heure. C'est qu'il y a qu'il a écrit comme ça. Ça met en valeur une chose propice de la langue française et dont je ne sais pas si on peut tirer le même avantage du Zeriz ou du Esgypt. Les gens qui en ont le maniement pourront peut-être me l'indiquer. Esquipe commente l'accusatif, n'est-ce pas? On dit Esquipe d'Einen, quelque chose, quand c'est au masculin. Zeris, on peut dire Zeris One, Zeris est quelque chose. C'est bien qu'il y a le Zer, qui est une amorce de ce côté-là. Mais c'est pas simple. En français, on peut dire Yona. Chose très étrange, je n'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas trouvable. Mais enfin, comme ça, de façon assez hâtive dont je procède, malgré tout. Fonction de l'art, en logique, j'en sais un petit quelque chose, il faut bien que je me presse. Le temps presse. Je n'ai pas réussi à voir, à trouver quelque chose, ni simplement, je vais vous dire ce que j'ai consulté, littré, le Robert, pendant que j'y étais, le Damourette et Pichon et quelques autres quand même. L'émergence historique, c'est ce qu'un dictionnaire comme le Bloc et Barbour, enfin Barbour est fait pour vous donner, l'émergence d'une formule aussi plus capitale qu'il y a qui veut dire ça. Il y en a. C'est sur le fond de l'indéterminé que surgit ce que Bessie pointe, proprement parlé, l'Ilia. Curieusement, il n'y a pas d'équivalent, c'est vrai, d'équivalent courant dans ce que nous appellerons enfin, les langues antiques. Au nom de quoi? Justement, se désigne que le discours, ou bien comme dit et comme le démontre Parménide, le discours sachant, c'est bien en ça que le discours analytique peut représenter une émergence et qu'il s'agirait peut-être que vous en fassiez quelque chose si tant est que des disparitions esprit, bien sûr, toujours présente, comme possible, sinon imminente, dès ma disparition, enfin, on s'attend dans le même champ à la véritable pluie d'ordures qui déjà s'annonce, parce que on croit que ça ne peut plus tarder. Dans la trace de mon discours, il vaudrait peut-être mieux que se confortent ceux qui pourraient donner à ce frayage une suite dont, heureusement aussi, j'ai dans un endroit bien précis enfin, quelques prémices, mais rares. Parce que on passe son temps à me casser les pieds et les oreilles avec le fait de savoir le rapport du discours analytique avec la révolution. C'est peut-être justement lui qui porte le germe d'aucune révolution possible. Est-ce qu'il ne faut pas confondre la révolution avec le vague à l'âme qui peut vous prendre comme ça à tout bout de champ sous cette étiquette? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y en a donc, c'est sur fond quelque chose qui n'a pas de forme. Quand on dit il y en a, ça veut dire d'habitude il y en a dû ou il y en a des. On peut même ajouter de temps en temps à ce des qui pensent, des qui s'expriment, des qui racontent, des machins comme ça. Ça reste un fond d'indétermination. La question commence de ce que ça veut dire de l'un. Car dès que l'un est énoncé, le deux n'est plus là que comme un mince pédicule, n'est-ce pas, sur ce qu'il en est de ce fond. D'où est-ce que cet un surgit? C'est très précisément sur la première hypothèse Platon essaye d'avancer à dire comme il peut faute qu'il ait à sa disposition d'autres mots, aye enestin s'il est un, car estime, manifestement, là, la fonction suppléante de ce qui ne s'accentue pas comme en français de l'ilien. Et ce qu'il faudrait sûrement le traduire, je comprends le scrupule qui y arrête les traducteurs, il faudrait sûrement le traduire s'il y a mais ce qui est certain, c'est que Platon choisit et que son n'a rien à faire avec ce qui englobe. Il y a même quelque chose de remarquable, c'est que ce qu'il en démontre immédiatement, c'est que il ne saurait avoir aucun rapport avec quoi que ce soit dont il a fait sur mille formes la recension métaphysique et qui s'appelle la diade. En tant que dans l'expérience, on sait, elle est partout, le plus grand, le plus petit, le plus jeune, le plus vieux, etc., etc., l'incluant, l'inclus, et tout ce que je voudrais de cette espèce. Ce qu'il commence par démontrer, très précisément ceci, qu'à prendre l'un par le moyen d'une interrogation discursive, et qui est là interrogé, si qui n'est évidemment pas le pauvre petit, le cher Mignon, j'ai nommé Aristote, si je m'en souviendrai d'un, contexte difficile de croire que ça puisse être à ce moment-là celui qui nous a laissé sa mémoire. Il est bien clair que, comme dans tout dialogue platonicien, il n'y a pas trace d'interlocuteur. Ça semble s'appeler dialogue pour illustrer ce que j'ai depuis longtemps pensé, que dialogue, justement, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas. Présente au fond du dialogue platonicien une bien autre présence humaine, disons-le. Que dans bien d'autres choses qui sont écrites depuis. Il nous en faudrait pour témoignage que ceci, que dans les premières approches, la façon dont se prépare ce qui constitue l'os du dialogue, ce que j'appellerai l'entretien préliminaire, celui qui nous explique, comme dans tous les dialogues, comment c'est arrivé que cette chose folle qui n'en ressemble en rien à quoi que ce soit qu'on puisse appeler dialogue. C'est là qu'on vraiment peut le sentir. Si déjà, on ne savait pas, par le commun de la vie, qu'on n'a jamais vu un dialogue aboutir à quoi que ce soit. Il s'agit, dans ce qu'on appelle dialogue, cette littérature qui a sa date, justement, de serrer quel est le réel qui peut faire croire, qui donne l'illusion qu'on peut arriver à quelque chose en dialoguant avec quelqu'un. Alors ça vaut qu'on prépare le truc, qu'on dise de quel zinzin il s'agissait. Il y a Parménide et sa clique, n'est-ce pas, qui est là, fallait rien moins que ça pour que puisse s'énoncer quelque chose. Fait parler qui? Eh bien, justement, là, à partir du moment où vous le faites parler, là, là ça vaut la peine de regarder à quoi ça sert celui qui tient notre crachoir, n'est-ce pas? Il ne peut que dire des trucs comme ça. Toto, Ananke, Ougaroun, Tidet, Alatalete, oh là là, Encore trois fois plus vrai que vous me le disiez, enfin, n'est-ce pas? C'est ça le dialogue. Naturellement, quand c'est l'un qui parle, ce qui est curieux, c'est la façon dont Parménide l'introduit. Le. Il lui passe la main dans le dos. Il lui explique. Fermillon. Laissez-y parler, cher petit. Tout cela n'est que bavardage. Parce que ne me traduisez pas adolescia, n'est-ce pas? Par l'idée qu'il s'agit d'adolescent. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas avertis. Surtout comme en face de la page, enfin, on me dit qu'il s'agit de se conduire comme des innocents, comme des genoux, vous pourriez confondre. Ils ne sont pas nommés comme ça, les genoux. Dans le texte grec, adolescia, ça veut dire bavardage. Et on peut considérer que c'est là quelque chose, l'amorce, la préfiguration. La préfiguration de ce que nous appelons, n'est-ce pas, dans notre rude langage, comme ça, tressé par ce qu'on a bu, la phénoménologie qu'on pouvait à ce moment-là avoir à la portée de sa main, ce qu'on a traduit par association libre. Naturellement, l'association n'est pas libre. Si elle était libre, elle n'aurait aucun intérêt, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose que bavardage. C'est fait pour apprivoiser le moineau. Du coup, l'association, il est bien entendu qu'elle est liée. Je ne vois pas quel serait son intérêt si elle était libre. Le bavardage en question, il est certain qu'il ne fait aucun doute. Comme ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais que c'est le. On peut voir là à quel point c'est lié. Parce que c'est très démonstratif. Avec les choses, n'est-ce pas, dans ce relief, ça permet de situer pas mal de choses. Et en particulier, le pas qui se franchit de Parménide à Platon. Puisqu'il y avait déjà un pas franchi par Parménide dans ce milieu où il s'agissait, en somme, savoir ce qu'il en est du réel. Nous en sommes toujours tout cela. Le vrai qu'on ait dit que c'était l'air, l'eau, la terre, le feu, qu'après ça, on n'avait plus qu'à recommencer, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui s'est avisé que seul facteur commun, toute cette substance dont il s'agissait, c'était d'être disciple. C'est ça le bâle parmi nous. Le pape Platon, c'est différent. C'est différent. C'est de montrer que dès que on essaie de dire d'une façon articulée, ce qui se dessine, la structure, comme on dirait comme ça dans notre, ce que j'ai appelé tout à l'heure notre langage, le mot structure ne vaut pas mieux que le mot d'association libre. Mais ce qui se dessine fait difficulté. Et que le réel, c'est dans cette voie qu'il faut le chercher. Eidos, qu'on traduit improprement la forme, est quelque chose qui promet le serrage, le cernage de ce qui fait béance dans le dit. D'autres termes, Platon était, pour tout dire, lacanien. Naturellement, on ne pouvait pas le savoir. C'est un peu débile. Ce qui ne facilite pas les choses. Mais ce qui sûrement l'a aidé, j'appelle débilité mentale le fait solidement installé dans un discours. C'est ce qui fait le prix du début. Il n'a aucune autre définition qu'on puisse lui donner. Sinon d'être ce qu'on appelle un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'entre deux discours, il flotte. Pour être solidement installé comme sujet, il faut s'en tenir à un. bien alors savoir ce qu'on fait. Mais c'est pas parce qu'on est en marche qu'on sait ce qu'on tient. De sorte que ce qui est de son cas, ça lui a permis solidement la belle, le cas. Il ne faut pas croire que dans son temps, les choses fussent pas prises dans un très solide discours, et il en montre le bout de l'oreille quelque part dans les entretiens préliminaires de ce Parménide. C'est tout de même lui qui l'a écrit. On ne sait pas s'il se marre. Non. Mais enfin, il n'a pas attendu Hegel pour nous faire la dialectique du maître et de l'esclave. Et je dois dire que ce qu'il en énonce, et d'une autre assiette que ce qu'avance toute la phénoménologie de l'esprit. Non pas qu'il conclut, mais qu'il donne les éléments matériels. Il avance, il le peut parce que son temps s'est pas chiqué. On se demande si c'était mieux plutôt que pire de penser que les maîtres et les esclaves c'était là affirmé ça permettait de s'imaginer ça pouvait changer à tout instant, et en effet, ça changeait à tout instant. Quand les maîtres étaient faits prisonniers, ils devenaient esclaves, et quand les esclaves étaient affranchis, ben, ils étaient libres. Grâce à quoi Platon s'imagine, et il le dit dans les préliminaires de ce dialogue, que l'essence même, l'eidos, et celle de l'esclave, ben on peut considérer qu'elles n'ont rien à faire avec ce qu'il en est réellement. Le maître et l'esclave sont entre eux dans des rapports qui n'ont rien à faire avec un rapport de l'essence. C'est bien en ça qu'il est un peu débile. C'est que nous avons pu faire et là, n'est-ce pas, il se perd toujours par une certaine voix dont il est curieux qu'on ne voit pas à quel point elle promet la suite. C'est qu'on est tous frères. Il y a une région comme ça de l'histoire, du mythe historique. Je veux dire du mythe en tant que Il est d'histoire. J'ai vu qu'une fois, chez les Juifs. On sait la fraternité, enfin, à quoi ça sert. Ça a donné le grand modèle. Elle est faite pour qu'on vende son frère. Ce qui n'a pas manqué de se produire dans la suite de toutes les subversions comme ça qui sont dites tournées autour du discours du maître. Il est tout à fait clair que les formes dont Hegel s'extime au niveau de la phénoménologie, la crainte de la mort, la lutte à mort de pur restant, et je t'en raconte et je t'en remets. Moyennant quoi, c'est l'essentiel à obtenir. Il y a un esclave. Mais seulement à tous ceux qui ont des frémissements comme ça, changer les rôles. Je demande, enfin, qu'est-ce qu'il peut faire puisque l'esclave survit, qui ne vienne pas tout de suite après la lutte à mort de pure prestance aujourd'hui, et la crainte de la mort qui change de camp. Tout ça ne subsiste, n'a chance de subsister qu'à condition qu'on voit très précisément ce que Platon écarte, mais qui se fera jamais, au nom de quoi? Parce qu'on ne peut pas, mon Dieu, sonder son cœur, c'est peut-être débilité mentale simplement, n'est-ce pas? Il est clair qu'au contraire, que c'est là la plus belle occasion de marquer ce qu'il en est. De ce qu'il appelle le metekein, la participation. Jamais l'esclave n'est esclave que de l'essence du maître. De même que le maître, sans lui être sa l'essence, appelez-le comme vous voudrez. J'aime beaucoup mieux l'écrire S-E, le signifiant maître. Et quant au maître, s'il n'y avait pas S-E, le savoir de l'esclave, qu'est-ce qu'il en ferait? Pour vous dire l'importance, cette chose invraisemblable qui en est l'un. C'est là le point à mettre en relief, car dès qu'on interroge cet un, ce qui devient comme une chose qui se défait, c'est qu'il est impossible de le mettre en rapport avec la série des nombres entiers qui n'est rien d'autre que cet 1. Bien sûr, ceci ne survient, n'arrive, ne surgit qu'à la fin d'une longue élaboration de discours dans la logique de Frege, celle qui s'inscrit dans les grandes de l'arithmétique. Vous verrez à la fois l'insuffisance de toute déduction logique du 1, puisqu'il faut qu'elle passe par le 0, dont on ne peut tout de même pas dire que ce soit là. Et pourtant, tout se déroule que c'est de ce 1 qui manque au niveau du 0 que procède toute la suite arithmétique, alors que déjà, parce que déjà 0 à 1, ça fait 2. Parce qu'il y aura 0, 1 et 2 avant et ainsi de suite. Et ceci très précisément jusqu'à au premier des alèves, qui curieusement n'est pas rien, peut se désigner l'alève 0. Bien sûr, ceci peut vous paraître à une distance savante. C'est bien pour ça qu'il faut l'incarner, et que j'ai mis d'abord Yadelin. Yadelin, et que vous ne vous sauriez trop vous exclamer de cette annonce, qu'autant de points d'exclamation à la suite, que précisément l'alève zéro sera juste suffisant pour sonder ce qu'il peut en être si vous l'approchez suffisamment, l'étonnement que mérite qu'il y ait là. Oui, ça ne mérite bien d'être salué de cette houille, hein, puisque nous parlons en langue douille. De dire « Oh, qu'est-ce qu'il est ?» Ici, eh bien, celui-là dont il s'agit est le responsable. Là, c'est à l'attraper par les oreilles, n'est-ce pas ? Que y en a montre bien le fond dont il existe. Le fond dont il existe tient dans ceci qui ne va pas de soi. C'est que, pour prendre d'abord le premier meuble que j'avais à la portée de ma main, l'un débile mental, vous pouvez y ajouter une grippe, un tiroir, un pied de nez, mais un bonjour à Catherine, une civilisation jarretière dépareillée, eh bien, ça fait 8. Si épars que ça vous paraisse, hein, il y en a comme ça à l'appel, mais ils viennent tous à l'appel. Et l'important, parce qu'il faut évidemment rendre sensible une chose autrement que par un 0, 1, parallèle, n'est-ce pas, L'important, c'est que ça suppose toujours le même un. L'un qui ne se détruit pas. Contrairement à la poudre aux yeux que je vais vous jeter dans l'histoire de Mille, n'est-ce pas? Simplement de prendre des choses distinctes, à les tenir pour identiques, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est simplement quelque chose qui illustre, dont on donne le modèle, le boulier. Mais le boulier a été fait, n'est-ce pas? Exprès pour que ça se compte. Et qu'à l'occasion se comptent les huit états que je vous ai fait surgir tout à l'heure. Seulement ce que le boulier ne vous donnera pas, c'est ceci qui se déduit directement et sans aucun boulier. C'est à savoir qu'entre ces huit meubles dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien, il y a parce qu'ils sont huit, 28 combinaisons, deux par deux. Pas une de plus. Et que ça, c'est comme ça que fait-le. Naturellement, et comme j'en ai pris huit, pas d'avance que ça ferait 28 combinaisons, encore que ça soit facile. C'est, je ne sais pas quoi, N moins 1 sur 2. Ça fait x 8, 42. Là, voyez-vous, ça ne fait pas 28, ça fait 21. Hein? Bon. Et alors, ça ne change rien. Le chiffre, on peut le connaître. Voilà donc ce qui, c'est ce dont il s'agit. Si j'en avais mis moins, c'est quelque chose qui vous aurait porté à travailler, à me dire que peut-être que même il faudrait aussi que je compte les rapports de chacun à l'ensemble. Pourquoi je ne le fais pas, hein? C'est ce que je serais forcé d'attendre la prochaine fois pour vous expliquer. Parce que les rapports de chacun à l'ensemble, ça n'élimine pas justement que il y a un ensemble. Et de ce fait, ça veut dire que vous en mettez un. Ce qui aboutirait à, en effet, augmenter considérablement le nombre des combinaisons de phares. Au niveau du triangle, si je vous avais mis seulement trois, ça aurait fait trois combinaisons seulement, nous. Vous en avez tout de suite six. Si vous prenez l'ensemble pour un. Mais justement, ce dont il s'agit, c'est de s'apercevoir là d'une autre dimension de l'un. Que j'essaierai de vous illustrer la prochaine fois, le triangle arithmétique. En d'autres termes, l'un, donc, n'a pas toujours le même sens. Il a le sens, par exemple, de ce « un », l'ensemble vide, curieuse, à notre numération d'éléments ajoutera deux. Je vous montrerai pourquoi et à partir de tout. Néanmoins, nous approchons déjà quelque chose qui a pas partir du tout de l'un comme tout. Montre que l'un, dans son surgissement, n'est pas univoque. En d'autres termes, nous renouvelons la dialectique platonicienne. C'est bien ainsi que je prétends vous mener quelque part à poursuivre par cette bifidité de l'un. Encore faut-il voir si elle tient. Cet un, Platon si bien distingue l'être, c'est assurément que l'être, lui, est eux, toujours, en tous les cas. Mais que l'un sache être comme elle, voilà qui est dans le Parménide parfaitement démontré. C'est bien, historiquement, d'où est sortie la fonction de l'existence. Ce n'est pas parce que le un n'est pas qu'il ne pose pas la question. Et il la pose d'autant plus qu'où que ce soit, à jamais, qu'il doive s'agir d'existence, ce sera toujours autour du un que la question tournera. La chose dans Aristote ne s'approche que timidement au niveau des propositions particulières. Aristote s'imagine qu'il suffit de dire que quelques seulement, pas tous, sont comme ci ou comme ça, pour que ça les distingue. C'est qu'en les distinguant de ce qui lui est comme ça, si celles-ci ne le sont pas, par exemple, ça suffit à assurer leur existence. C'est bien en quoi l'existence, déjà dès sa première émergence, s'amorce tout de suite, s'énonce de son inexistence corrélative. Il n'y a pas d'existence sinon sur fond d'inexistence et inversement, existerait de tenir son soutien que d'un dehors qui n'est pas. C'est bien là dont il s'agit dans l'un. Car à la vérité, d'où surgit-il? En un point, Platon arrive à le serrer. Il ne faut pas croire que ce soit comme il semble seulement à propos du temps. Il l'appelle temps exaiphles. Traduisez ça comme vous voudrez, c'est l'instant, c'est le soudain. C'est le seul point où peut le faire subsister, c'est bien en effet toujours, où toute élucidation du nombre, et Dieu sait qu'elle a été poussée assez loin pour nous donner l'idée que il y a d'autres alephes que celui des nombres, et celui-là, cet instant, ce point, là c'est ça qui en serait la véritable traduction. c'est bien ce qui se trouve décisif au niveau d'un aleph supérieur, au niveau du continu. L'un donc, ici précisément, semble se perdre et porter à son compte ce qu'il en est de l'existence, jusqu'à confiner à l'existence comme telle, en tant que surgissant. Difficile terre, du plus fuyant dans l'énonçable. C'est juste ce qui m'a fait trouver à me reporter à Steak Siphness, dans Aristote lui-même, à m'apercevoir qu'en fin de compte, il y a eu émergence de ce terme d'exister. Quelque part, dans la physique, vous pourrez le trouver sur Jésus Gouldon, c'est quelque part le livre 4 de la physique d'Aristote, on ne le voit pas ici dans les papiers de la doyenne. Aristote le définit comme justement quelque chose qui en anaïstéro chrono dans un temps qui ne peut pas être senti via microtête en raison de son extrême petitesse est donc extable. Je ne sais pas si ailleurs, qu'en cet endroit, du livre 4, la physique, le terme extane est proféré dans la littérature antique. Mais il est clair qu'il vient de, c'est un participe passé. Le participe passé de l'aoriste seconde, stéli, de cet aoriste qui se dit estène, c'est stan, et je ne sache pas qu'il y ait de verbe ec, stéli. C'est à comprendre. Quoi qu'il en soit, le sistéré est déjà là. L'être stable. Être stable, à partir d'un dehors, dans extant, ce qui n'existe qu'à n'être pas. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est cela que j'ai voulu ouvrir aujourd'hui, sous le chapitre général de l'union, et je vous en demande pardon, si j'ai choisi l'union, pardonnez-moi, c'est que c'est anagramme d'ennui.